Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, je suis effectivement professeur de physiologie. Alors, la physiologie, c'est juste le parti de la médecine qui ne fait pas comme les autres, c'est-à-dire comment ça marche quand ça marche, pendant que tous les autres médecins qui, eux, ont compris ce que c'était que la médecine, s'intéressent à ce qui dysfonctionne quand ça dysfonctionne. Mais il n'en reste pas moins que la physiologie est un métier qui a besoin d'explorer l'humain, de comprendre les fonctions, et c'est ce qui le différencie de la machine aussi intelligente soit-elle. Une machine, ça analyse, ça classifie, ça sélectionne, ça statistiquise. C'est un néologisme scandaleux, mais c'est pas grave. Mais ça comprend pas nécessairement pourquoi. Et donc je pense qu'il est encore pas demain que la machine me remplace dans mon métier de physiologiste. Et je voulais rassurer Madame Boyer, je ne suis pas non plus inquiet sur le fait que la machine remplace les soignants, parce que la médecine, en tout cas dans sa partie clinique et pratique, c'est d'abord un métier du contact, et qu'on n'a jamais vu un robot rire quand un patient lui fait des blagues. Alors, donc je ne suis pas très inquiet sur mon avenir professionnel, d'autant moins que je vais essayer en tout cas de vous l'illustrer, l'objet connecté fait en fait déjà partie du quotidien des gens du domaine de la santé, qu'ils soient médecins ou paramédicaux. Donc l'objet connecté en santé, on va passer cette diapo, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est un historique sur lequel je vais passer relativement vite, rassurez-vous, qui est effectivement l'évolution technologique absolument prodigieuse. On est dans le domaine de la santé sur l'introduction de l'objet connecté après-guerre, à la suite de la demande des sociétés américaines d'obtenir des données scientifiques sur un certain nombre de situations, en particulier des chocs. Vous avez tous connaissez le GPS dans votre quotidien, mais le GPS, je suis certes un vieux schnock, mais moi quand je suis né, il n'existait pratiquement pas. Il était à usage militaire exclusif aux États-Unis, encore très secret. Et puis il a été ensuite divulgué vers le grand public beaucoup plus tard. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis après, il y a eu l'apparition, l'explosion dans les années 2000 de ce qu'on appelait le self-quantified, c'est-à-dire tous ces objets que vous avez dans votre poche, tous autant que vous êtes ici, et qui vous permettent d'analyser votre quotidien au sens large. Alors, en parallèle de cette disponibilité, on a vu aussi, en même temps qu'augmentaient les capacités des appareils et des outils qui vont être à la base de l'objet connecté, on a vu diminuer aussi leur prix. C'est absolument incroyable, hein. Vous avez ici une estimation, hein, en 2005, 6 puces, c'était 360 $, et on fait la même chose en 2012 avec une puce à 17 $, et les prix continuent de baisser pendant que les capacités augmentent. Et on estimait déjà il y a presque 5 ans que près de la moitié des médecins utilisaient un objet connecté dans leur quotidien. Alors, pourquoi on produit des données? On produit des données à partir de quoi? On produit des données à partir de questions. Et ça, à ce moment-là, l'outil va être un outil qui va permettre de faire des algorithmes d'analyse de ces questions. On peut ensuite utiliser des objets qui vont nous permettre de mesurer, donc que ce soit des mesures de mouvement, des accéléromètres, des podomètres, des mesures physiologiques, d'impédance-métrie, utilisant par exemple aussi l'infrarouge. Et puis, on va pouvoir connecter ces informations recueillies à un connecteur d'informations qui va être à proximité du patient, mais le connecteur, il va vite saturer, donc il va transférer ensuite ces données vers une centrale d'acquisition. Et c'est toute cette chaîne à la fois de recueil, le recueil il est là, mais après aussi de transfert de l'information et de son analyse et de son stockage qui va parfois poser question. On estimait environ à 3,5 milliards le nombre GPS vendus en 2014. Alors, vous en connaissez de ces objets, vous voyez qu'on est passé. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est avec ça que j'ai commencé à travailler dans les années 95. C'était un GPS Garmin qui était absolument une machine extraordinaire, sauf qu'elle avait des instabilités d'acquisition absolument épouvantables. Et on est passé de ces machines qui coûtaient 150 € à des montres connectées qui, tout au plus, coûtent la moitié d'une centaine d'euros à peine. Et malheureusement, elles ne font pas le café, mais elles font au moins un certain nombre de choses en termes de GPS. Et elle donne l'heure, ce qui est quand même merveilleux. Ce qui, somme toute, montre que ces machines sont, si ce n'est intelligentes, au moins utiles au quotidien. Alors, l'objet connecté dans le domaine de la santé, je vais m'intéresser peut-être particulièrement à l'activité physique et au sport de par mon activité professionnelle. Elle a été initialement et principalement développé dans l'évaluation des chocs, les Américains ayant remis au goût du jour les combats de cirque, mais sous une forme un peu plus élégante qu'on appelle le football américain. j'espère que personne ici ne joue au football américain, se sont quand même intéressés au fait que, par rapport à l'époque romaine, il était quand même d'assez mauvais goût de laisser un joueur mort sur le terrain du fait des chocs et des traumatismes qu'il pouvait recevoir. Et donc, les premières applications de l'objet connecté dans le domaine de l'activité physique et de la santé se sont faites sur l'évaluation des traumatismes et des chocs au travers d'un certain nombre de capteurs, et vous en voyez ici, hein, qui est caché derrière l'oreille de ce footballeur soccer, hein, pas américain là, et puis d'autres qui peuvent être positionnés sur les casques que les footballeurs américains se mettent sur la tête avec les autres harnachements dont ils se parent pour faire ce merveilleux sport de contact qu'est le football américain. Mais au-delà donc de ces premiers développements dans le sport de haut niveau américain, on a vu apparaître, et vous le savez, un certain nombre d'objets aujourd'hui dans beaucoup de domaines sportifs, hein, le cyclisme bien sûr, les chaussettes des sportifs, quelques sportifs y soient, le ballon lui-même, hein, on parle d'arbitrage aujourd'hui, d'arbitrage électronique, c'est de l'objet connecté en milieu sportif, et c'est pas immédiatement dans l'interface homme objet, mais c'est quand même un objet manipulé par l'homme. Et puis on peut aller jusqu'à mettre des objets connectés dans des protège-dents, hein. Donc on a vraiment des objets qui sont de toutes petites dimensions pour là encore mesurer les chocs. Et comme on ne voulait pas être en reste, les boxeurs font ça très bien, merci. Il n'y a quand même pas que les Américains qui ont inventé les jeux du cirque. J'espère encore une fois qu'il n'y a pas de boxeurs dans la salle. Ce faisant, il y a même des... Vous les connaissez, des objets connectés qui sont, par exemple, on le voit ici, ces oreillettes, hein, et ce sont des objets aujourd'hui très largement utilisés, largement décriés, et pourtant les généralisés pratiquement dans toutes les équipes. Et là, je vais vous raconter une petite histoire de chasse, parce qu'elle est rigolote, qui m'a été rapportée par le médecin de la Fédération française de cyclisme il y a quelques mois de cela, et qui me disait qu'à l'occasion d'une grande compétition cycliste, un des bons champions qui était présent sur la course a raté un virage absolument inratable. Et quand il est sorti du tas de ronces dans lequel il s'était vautré dans le virage et en descente, s'est retourné vers son directeur sportif en lui disant « Tu m'avais pas dit que ça tournait à droite. » Alors, non mais, voilà, donc ça c'est l'intégration de l'objet connecté. L'histoire est, enfin, elle est de deuxième main puisqu'elle m'a été racontée par le médecin fédéral national. Mais elle laisse quand même un peu rêveur sur la confiance qu'on va porter à ces objets connectés et sur la nécessité qu'il y a aussi quand même d'avoir un peu de recul et d'analyse sur la qualité de la mesure, sur l'utilité de cette mesure et sur la façon dont on va l'intégrer et sur en particulier les effets que vont avoir l'utilisation de ces objets connectés sur l'interface entre le patient, le médecin et la situation clinique ou pathologique à laquelle le patient au sens large, qu'il soit sportif ou qu'il soit malade, fait face. Alors les objets sont devenus tellement miniaturisés qu'on est maintenant capable aussi de faire des enregistrements multiparamétriques mais aussi multi-individuels et d'enregistrer simultanément une équipe de soccer, donc de football, mais le nôtre, hein, de rugby, de ce que vous voulez, sans que, effectivement, on ait besoin d'avoir 5, 6, 7, 8 observateurs pour analyser l'activité de chacun des joueurs. Et ça a énormément influé à la fois sur les modalités des actions de match, sur la façon dont on suit nos athlètes. Et il faut admettre que même malgré ces progrès, eh bien, on n'empêche pas des catastrophes comme il y en a encore eu il y a ces derniers jours, parce que l'objet, il est pas, il fait pas tout, il surveille pas tout, et qu'on n'empêchera jamais malheureusement des joueurs de mourir sur le terrain, ce qui d'une certaine façon aussi justifie le fait que je sois là, et de ce point de vue là je suis pas non plus très inquiet sur le fait que mon métier soit remplacé par des robots demain. Ce faisant, vous connaissez aussi, alors au-delà des sportifs de haut niveau, l'objet connecté, c'est l'objet connecté que vous avez tous dans votre poche. Levez votre portable, j'ai laissé le mien à ma place, je suis désolé, je ne l'ai pas, mais je pense que vous avez tous un portable dans la poche, ou peu s'en faut. Et ces portables, ils sont absolument extraordinaires, puisqu'ils vont vous proposer aujourd'hui des outils qui, à travers des objets qui sont situés à l'intérieur de votre portable, sont capables de vous donner des informations sur vos déplacements, urbains ou non urbains, sur les fréquences, les vitesses, les intensités de ces déplacements, de les traduire de façon un peu ésotérique en intensité d'activité physique, bon ça déjà ça commence à être un peu contestable, de les traduire en fonction de la durée de l'intensité, en quantité de calories brûlées, bon là on commence à être un tout petit peu dans le vague, mais il n'en reste pas moins qu'on vous le vend en vous disant, vous allez voir, on vous donne le nombre de calories à la calorie près. Et puis, ces outils sont bien entendu évidemment totalement gratuits, comme vous n'en doutez pas, sachant que c'est un modèle économique absolument extraordinaire. Et on imagine aujourd'hui, on estime que la santé portera environ 25 à 30% de l'économie mondiale des objets connectés à l'échéance 2025, parce que cette gratuité, cette soi-disant gratuité, elle est tout sauf gratuite, et il y a un modèle économique derrière tout à fait considérable, mais dans laquelle je ne voudrais pas m'aventurer. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Ce n'est pas mon propos, si ce n'est que, si j'aborde la question, c'est qu'elle pose un certain nombre de jalons sur les éléments et les limites de l'objet connecté dans le domaine de la santé que j'aborderai tout à l'heure. L'objectif des distributeurs, il est lucratif, il n'y a aucun doute là-dessus. Le mercantilisme est ce qu'il est, et le sens commun qui veut qu'il faut qu'on gagne de l'argent avec ce qu'on fabrique fait que c'est normal que les sociétés essayent de gagner de l'argent, que les multinationales s'impliquent de plus ou moins dans les start-up, que les revenus sont générés par la vente, mais pas seulement la vente de l'objet, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que ces sociétés qui vous vendent des objets gratuits collectent un certain nombre d'informations, les centralisent, les agrègent, les synthétisent, les analysent, les big dataisent. Il y a encore un néologisme qui me plaît bien, et qui va, à partir de ces informations, pouvoir ensuite vendre pas nécessairement le contenu, mais l'information issue de ces contenus pour des applications secondaires. Après, la vraie problématique, et je voudrais principalement appuyer sur ce point-là aujourd'hui avec vous, c'est que le développement de ces objets connectés se heurte aujourd'hui à une réalité à une limite, qui est la validation scientifique de ces objets. Et je pense que s'il y a deux messages que je souhaiterais que vous gardiez en mémoire après mon intervention, le premier, il est là. La validité de l'objet médical passe par l'expérience. On a appris ça de longue date, et pas seulement de la période de Claude Bernard, puisque l'expérience, ça date de Ambroise Paré, qui avait, en XVIe siècle, à l'époque où on considérait que le bézoard était une panacée universelle pour soigner les maux, avait décidé de vérifier que c'était ça et que ça marchait ou que ça marchait pas. Et il se trouve qu'il avait un marmiton qui avait volé une pièce d'argenterie au roi, et que ce faisant, le marmiton était condamné à mort. Et donc Ambroise Paré est allé voir le roi en disant « Sire, j'ai besoin de vérifier cette hypothèse médicale que le bézoar, ça marche. » Et donc on a donné le choix au marmiton de se faire intoxiquer par un poison, puis de prendre du bézoar, ou d'être... à l'époque, peut-être pas encore guillotiné au XVIe, mais en tout cas pendu ou écartelé, peu importe. Il a accepté, donc consentement éclairé du candidat, il est mort, ce qui prouve bien que les expérimentations médicales ne sont pas toujours couronnées de succès. Mais tout est là, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un problème, une question, une expérimentation, certes N égale 1, je vous l'accorde, l'accord du patient, il n'avait pas trop le choix, somme toute, mais enfin, il a quand même donné son accord, l'expérience et l'analyse. Bien. On a fait un petit peu plus compliqué par la suite, puisque la découverte effectivement de l'apport vitaminique lié effectivement au scorbut que l'on attribue à James Lind au 18e, et Lind avait imaginé de complémenter l'alimentation d'un certain nombre de marins en petits groupes à qui il allait donner soit du vinaigre, soit du jus de citron, etc. Et il allait compter effectivement le nombre de marins qui, lors des grandes traversées, allaient développer un scorbut. Et c'est ce qu'on attribue usuellement comme étant la première expérience qui avait permis de montrer l'intérêt de cette vitamine C, comme vous le savez. On a fait un petit progrès sur la démarche médicale. On est bien dans un problème, une question. On a fait des groupes comparatifs. On a l'accord peut-être des patients. On a une expérience et un résultat. Et ce résultat, effectivement, objectivement, a changé un peu la donne des marins pour les croisières au long cours. Donc avec un bénéfice patient incontestable, et ce bénéfice patient, il est dans le cœur aujourd'hui des lois de bioéthique. D'abord la loi la déclaration des Helsinki pour la protection des patients, et puis ensuite beaucoup beaucoup plus récemment la loi Jardet qui 2016 a été amendée en 2017, en 2018, le sera encore en 2019, c'est un vrai bonheur. Mais c'est quand même la loi qui encadre la recherche dans le domaine de l'évaluation des soins des patients. Je vais passer sur ces évaluations de loi Jardé pour rester dans le temps qui m'est imparti. Simplement pour bien préciser, dans la loi Jardé, on distingue en fait les dispositifs dits médicaux des dispositifs hors produits de santé. Et j'ai ici quelques illustrations. Mais paradoxalement, dans l'objet connecté, il y a des produits qui sont dits hors produits de santé qui sont quasiment assimilables à des dispositifs médicaux. Lorsque vous enregistrez votre fréquence cardiaque avec votre petite montre connectée, c'est une information médicale. Et là encore, petite histoire courte, c'est promis. J'ai fait il y a quelques semaines mon premier diagnostic sur Internet d'un patient qui m'a contacté en disant « Je reviens d'un grand voyage, j'avais 12 heures d'avion, ma fréquence cardiaque est 15 battements plus élevée qu'elle ne l'était avant que je sois parti, puisque c'était un sportif. Docteur, il faut que je vienne vous voir. » Je dis « C'est pas la peine, faites une scintigraphie ou une angiographie pulmonaire, vous avez fait une embolie. » Il avait fait une embolie. La mesure connectée, si le patient ne m'avait pas consulté, mais que j'étais moi le gestionnaire de la base de données qui fait que j'ai régulièrement la fréquence de mon patient et que je vois que depuis des années, il est à 60. Et puis, je sais aussi, parce qu'il a payé avec sa carte à Internet, qu'il a fait un voyage de 12 000 km en avion. Et quand il revient, sa fréquence cardiaque de repos est à 90. Je sais déjà ce qu'il a sans même être médecin, parce que mes algorithmes vont me permettre de le savoir. Et donc, cet objet qui est hors produit de santé est un objet de santé. Il vous donne une information de santé qui est une information pertinente, éventuellement relié à d'autres informations, mais ça pose vraiment des problèmes. Et puis, je voudrais insister sur un point extrêmement important, et je passerai assez vite sur les diapos suivantes, c'est que la validation de ces outils, aujourd'hui, fait défaut. On voit plus de produits apparaître que les façons et les méthodes qu'on a pour les valider. Pourquoi ? Parce que la validation d'un objet, aussi simple soit-il, passe par des phases extrêmement précises qui vont de l'élaboration du projet d'évaluation à l'analyse et à sa publication. Je vais passer très vite sur ces phases, elles sont extrêmement réglementées, et que vous fassiez ces mesures chez un malade et encore plus chez un non-malade, vous devez de rentrer dans le cadre de la loi bioéthique. Vous n'avez pas le droit d'expérimenter comme ça sur un coin de table sans être passé par les fourches codines de l'Agence nationale de sécurité du médicament, des comités de protection des personnes et j'en passe. Donc ces élaborations prennent du temps. Et quand il s'agit de faire la promotion, l'assurance, les soumissions, etc., eh bien, au bout du compte, développer une étude pour évaluer un objet, aussi simple soit-il, ça prend quelque chose entre, allez, au bas mot, entre la conception, l'idée que vous allez avoir de valider cet objet et la validation et la publication de cet objet, on est sur des délais qui peuvent être de 1 à 3 ans. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui dans l'interface entre l'homme et l'objet connecté, parce qu'on a un vrai défaut de validation scientifique aujourd'hui des objets connectés, parce qu'il sort infiniment plus d'objets connectés qu'on ne peut en valider. Et là, j'avais pris quelques exemples que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais où on voit que sur une période de 13 ans, on a vu se multiplier les objets qui étaient là pour évaluer les chocs au football américain, sans que réellement ces objets aient pour tous fait l'objet d'études, voire même d'études contradictoires. C'est la même chose pour les brosses à dents. Oh, pardon. Encore que votre brosse à dents vous espionne. Peut-être demain, votre dentiste refusera de vous soigner si vous n'avez pas suffisamment utilisé votre brosse à dents. Et en tout cas, on voit bien que même pour ces objets de porte de protège-dents, eh bien, on voit aussi des objets qui sortent. Alors, un objet qui me tient à cœur, c'est le GPS. Le GPS, donc, je vous ai dit, ça a été un objet militaire. Il a été ensuite mis à disposition du grand public dans les années 2000. Et nous avions eu l'idée, il y a quelques années, d'évaluer avec un GPS de l'époque, j'aime autant vous dire qu'ils ont beaucoup évolué, la capacité de marche de nos malades. Je travaille dans un domaine qui est celui des maladies artérielles. Et la maladie artérielle, ça se caractérise d'abord par des difficultés à la marche. Et donc, on explore ces gens dans les laboratoires. Mais en réalité, à titre d'exemple, on dit aux gens, quelle est votre capacité, votre distance de marche? Dans le meilleur des cas, les gens vous disent, bon, j'en sais rien, ça énerve un peu le médecin. Alors on dit, mais oui, mais votre distance? Bah, je sais pas. Et on insiste, alors, et votre distance? Ben, ça dépend. Alors là, ça commence à énerver vraiment le médecin qui est en face du patient, jusqu'à ce que le médecin en question fasse des expériences de terrain et se rende compte que les patients n'ont pas une distance de marche. En fait, quand ils marchent dans leur quotidien, ils sont arrêtés par leur gène avec des distances extrêmement variables, ce qu'on ignorait complètement d'avoir été capable, grâce à des objets connectés, d'aller sur le terrain. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'objet connecté. Il va nous donner des informations absolument pertinentes, passionnantes, pour mieux comprendre la pathologie de nos patients. Je vais passer pour des raisons à la fois de temps et parce que je crois que ça va être traité un peu plus tard sur la sécurité de l'information. Donc je ne vais pas développer trop ces diapositives. Sachez que quand vous utilisez votre montre connectée, vous ne savez pas où est votre fréquence cardiaque. Il faut l'admettre et il ne faut pas perdre d'esprit que la fréquence cardiaque est une donnée médicale. Donc je vais volontairement passer sur cet élément pour aller vers ma dernière diapositive. Je pense que je suis dans les temps. Cette diapositive, c'est quoi? Ben, c'est quoi le futur de l'objet connecté dans le domaine de la santé? C'est évidemment ce qu'on appelle le self-quantified, le quantified self, c'est-à-dire la capacité de s'évaluer, de se mesurer sa bonne santé. En utilisant cette donnée-là, il ne faut pas perdre l'esprit qu'il n'est pas totalement exclu qu'à l'avenir, on vous dise, comme je le disais tout à l'heure, que vous n'avez pas assez utilisé votre brosse à dents connectée et que vos soins dentaires ne seront de ce fait pas remboursés. Ou en tout cas, que vous aurez intérêt à payer beaucoup plus cher pour qu'il le soit. Ne pas oublier, je viens de le dire, que des données connectées sont de l'ordre de la santé, même si elles ne vous apparaissent pas comme cela dans votre quotidien, qu'elles servent aux providers et aux gens qui vous donnent ces programmes gratuits à faire au moins, pour le moins, de la publicité ciblée, mais aussi éventuellement revendre des informations à différents financeurs, y compris les assurances et les mutuelles. Je cite un cas réel, hein, le groupe Mutuelle Suisse qui proposait de rembourser à ses assurés 25% de l'achat d'un produit de la gamme X, pardon pour la pub. On est vraiment vers l'objet connecté qui va piloter votre quotidien, qui va être un peu plus intrusif qu'il ne l'est aujourd'hui. Je ne parle pas du modèle économique, enfin du modèle automobile, Madame Royan a parlé tout à l'heure, elle est infiniment plus compétente que moi dans ce domaine. N'oubliez pas le problème de l'homologation. Aujourd'hui, il y a, par exemple, vous allez dans une pharmacie pour acheter un tensiomètre, vous avez une vingtaine de matériels différents. En général, la moitié d'entre eux n'ont jamais fait l'objet d'une validation clinique. Ils sont conceptuellement, technologiquement fiables. Le sont-ils en pratique? Un point intéressant, donc c'est un tiers des utilisateurs partagent leurs données, dont la moitié le fait avec un professionnel de santé aujourd'hui. Plus de deux tiers des Français considèrent que ce sont les professionnels de santé qui sont le plus à même de gérer des données issues des objets connectés, ce qui est un paradoxe parce que 99% d'entre eux laissent partir leurs données de l'objet connecté vers des centrales qui ne sont pas médicalisées. Le take-home message, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que le développement aujourd'hui de l'objet connecté, c'est notre lièvre de la fable, que la validation de ces objets, eh ben, nous on est avec une grosse maison sur le dos, qui est cette loi de bioéthique, hein, qui est là pour la sécurité des patients au sens large et des sujets qui se prêtent à la recherche, en particulier les sujets sains. Il n'est pas dit que le lièvre gagnera à la fin, et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, professeur Abraham. Maintenant, y a-t-il des questions sur le sujet?
Bonjour. Oui, en ce qui concerne donc ces objets connectés, c'est absolument passionnant et ça va très 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 vite. Il y en a de plus en plus, il y en a partout. Et je m'interroge un petit peu justement aussi sur les déviations justement possibles de ces objets connectés. Par exemple, dans le sport, on parle, j'ai entendu parler, et je pense que ça va venir, de possibilités que les spectateurs deviennent les acteurs en programmant par exemple les actions des tribunes, faire un certain nombre de choses comme ça à partir de... Comment?
C'est le Romain?
Voilà, oui, c'est un peu ça, exactement, oui, tout à fait. Dans le domaine de la médecine, c'est pareil. Est-ce qu'on va pas arriver à une sorte d'automédication à partir de logiciels et une substitution finalement des médecins?
Alors, merci de cette question. C'est vraiment une question passionnante et je pense qu'on pourrait discuter très très longtemps là-dessus. La substitution des médecins, j'y crois pas. J'y crois pas. Autant je crois à l'objet, alors là on sort de l'objet capteur électronique vers l'algorithme décisionnel, l'aide à la décision. C'est déjà une réalité du quotidien des médecins. Et c'est aussi une évolution absolument incroyable de la pensée médicale dans je dirais, les 30 dernières années, où on est passé d'une médecine qu'on aurait voulu, d'une médecine du tout ou rien, vers une médecine de l'équilibre bénéfice-risque. Bénéfice. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, pour prendre un exemple très pratique, on institue un traitement pour fluidifier le sang. Eh bien, on sait que ces traitements fluidifiants, que ce soit les anticoagulants, anticoagulants, peu importe, ces médicaments, ils ont des risques de saignement, mais ils ont aussi, on en attend, un bénéfice pour diminuer le risque de thrombose, de caillot, parce que le sang est à la fois ce milieu extraordinaire qui ne caillote pas spontanément dans nos vaisseaux, mais qui fait que si on se blesse, on arrête de saigner quand même. Et donc aujourd'hui, ces réflexions-là, elles sont déjà guidées par un rapport bénéfice-risque. Il fut une époque où la médecine réagissait peu comme ça. On a appris à de plus en plus essayer de tenir compte de ce rapport bénéfice-risque. Et je pense que l'algorithme décisionnel, l'aide à la décision, les algorithmes de choix, etc., se sont déjà imposés dans le quotidien des médecins. Après, vous posez le problème de l'automédication. Oui, il existe et il existe déjà. On en voit, mais enfin, le problème, c'est que de ma position hospitalière, je n'en vois que les effets pervers. J'en vois pas les effets bénéfiques. Donc, j'ai tendance à surestimer cette perversité. Or, c'est dommage parce qu'il y a clairement un bénéfice à ce que les gens se prennent intelligemment en charge. La problématique que ça pose, et là, on pourrait en parler aussi des heures, c'est la qualité de ces informations et le fait qu'aujourd'hui, l'absence quasi totale de filtre de l'information dans le domaine du web et de l'Internet fait que la qualité de l'information est souvent très faible.
Oui, j'aurais une question également. Sur les objets connectés, il y a eu un scandale quelque temps sur les dispositifs médicaux avec les journalistes indépendants là, du consortium international. C'est des objets qui finalement peuvent avoir une incidence très importante. Ce sont parfois même des dispositifs médicaux. Et vous l'avez dit, la période de validation finalement, enfin d'exploitation va être entre 1 et 3 ans, là où un médicament va quasiment prendre parfois 10 voire 15 ans. Et on s'est aperçu via ce scandale un petit peu des prothèses que finalement il n'y avait pas du tout le même contrôle que pour les médicaments. La NSM, c'était une véritable passoire. Est-ce que vous réfléchissez là-dessus par rapport à ces objets connectés qui peuvent servir à la décision mais qui finalement ne sont validés par personne et qui peuvent potentiellement entraîner des dommages très importants?
Je m'attendais à cette réponse, d'ailleurs j'en ai parlé en aparté avec votre directrice tout à l'heure. Il n'y a pas de scandale. Je suis désolé, c'est très provocateur de dire ça. Il n'y a pas de scandale. Ces objets, ces prothèses, puisque vous parlez de ça, ont respecté très scrupuleusement la loi qui les autorisait à mettre sur le marché un objet. Non, attendez, laissez-moi finir. Un objet, pour peu qu'il montre qu'il est comparable à un objet du même type, mais qu'il apporte une amélioration technologique. Il n'y a pas eu de tricherie des sociétés vis-à-vis de la déclaration de leur objet. Elles ont respecté une procédure qui aujourd'hui ne leur impose pas de vérifier la biocompatibilité dès lors qu'elles sont comparable à un produit antérieur. Alors, on sort un peu de l'objet connecté, donc je ne veux pas trop m'apesantir là-dessus, mais la problématique est la même sur l'objet connecté. Aujourd'hui, si un objet connecté est considéré hors produit de santé, mais qu'il est de facto un produit à information médicale, et la caricature de ça, c'est les montres. C'est des montres qui font des cardiofréquences-mètres. Eh bien, on n'a pas aujourd'hui d'obligation de valider, puisque ce sont des produits hors produits de santé, et la plupart sont mis sur le marché sans contrôle, sans validation. Je vous parlais du GPS tout à l'heure, quand on a travaillé à l'époque avec cet appareil d'une marque Garmin que je ne citerai pas. On a mis plus de 6 mois à faire admettre au constructeur que la fréquence d'échantillonnage de l'appareil était instable, et que ça posait des problèmes, parce que notre appareil il s'arrêtait pendant 4 secondes, mais il vous donnait les résultats comme si vous aviez mesuré une demi-seconde. Et au bout du compte, ils nous ont dit « Oh oui, mais de toute façon, c'est du matériel grand public. » Et ils n'ont pas corrigé l'appareil. Donc, je pense qu'après, la problématique, c'est la problématique, là encore, de l'équilibre entre est-ce qu'on veut freiner le développement des objets ou... Parce que ça coûte très cher, l'évaluation. Une recherche médicale, une validation d'un objet connecté, ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Pour faire, on compte en général pour une étude plus de 1 000 euros par sujet. Donc ça coûte extrêmement cher. Donc si vous voulez, si on dit chaque nouvel objet devra faire l'objet d'une validation clinique, d'abord il faut que cette validation soit de qualité, voire même qu'elle soit contradictoire, donc il faudra plusieurs études. Et puis c'est un frein absolument considérable au progrès. Donc là encore, le législateur, dans son bon sens commun, se dit, est-ce que je contrains tout le monde à valider jusqu'à la biocompatibilité pour ce qui est par exemple des prothèses, jusqu'à la validation des produits hors produits de santé et pourtant qui donnent de l'information pertinente sur le plan clinique? Ou est-ce que je laisse les progrès se faire? Je ne suis pas le législateur, nous le sommes, hein, on vote et on a un choix à faire. Et ce choix n'est pas aussi manichéen que ça. Enfin, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des vraies problématiques et questions d'ordre à la fois éthique, aussi sur ce qu'on attend du progrès médical. Donc, c'est un compromis. On vit de compromis tous les jours.
Voilà. Et une dernière question.
Bonjour. Moi, je me demandais, à l'inverse de la première question, l'objet connecté peut-elle être une preuve justifiant ou non un acte médical du médecin? Autrement dit, vis-à-vis, vous en avez parlé, est-ce qu'un médecin va demander à un patient combien de pas avez-vous fait dans la journée? La personne ne va pas savoir répondre. Est-ce que l'objet connecté va permettre de justifier un minimum qui avait été ordonné, entre guillemets, par le médecin? Et si ce minimum n'est pas atteint, le médecin va pouvoir alors déclarer « je ne vois pas comment je peux agir pour vous soigner, alors que vous ne pouvez pas répondre à mes exigences de médecin ».
Je vais vous raconter une petite histoire pour ne pas répondre à votre question. Comme ça on ne sera pas contents tous les deux. Lorsqu'on faisait l'étude GPS, j'en ai fait d'autres, hein, l'étude sur objets connectés, mais parce que je vous ai parlé du GPS, c'est assez rigolo. On avait dans l'étude un patient qui avait une maladie artérielle assez sévère pour laquelle il a fallu l'opérer pour faire un pontage, ramener du sang dans sa jambe, ce qui lui a permis de beaucoup mieux, en principe, de beaucoup mieux marcher. Et le patient est revu par le chirurgien 3 mois plus tard et le patient est extrêmement insatisfait. Extrêmement insatisfait, disant au chirurgien « vous ne m'avez pas opéré pour rien, je ne suis pas amélioré, je marchais 200 mètres avant l'opération, je marche toujours 200 mètres après l'opération, ça n'a servi à rien ». Il n'en était pas tout à fait à le menacer de faire un procès, mais pas loin. Et il se trouve que mon collègue chirurgien me dit « écoute, je ne comprends pas, le pontage fonctionne parfaitement, on avait en plus des arguments avant l'opération comme quoi probablement le pontage devrait être efficace ». Et on lui refait la mesure GPS. Il n'avait pas amélioré sa distance de marche. Il avait triplé la vitesse avec laquelle il marchait. Mais il ne s'en était pas rendu compte. Donc voilà, c'est une petite histoire de chasse, mais ça illustre le fait que l'objet ne remplacera pas la décision. Il nous apporte des informations pour notre échange avec le patient. Il nous apporte des informations dans le quotidien du patient. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on n'aurait jamais été capable en laboratoire de lui dire ça. Mais quand on a fait marcher ce patient en ville avec son boîtier, on s'est rendu compte que sa vitesse de marche était 3 fois plus rapide. Et le patient n'en avait absolument pas conscience. Et donc, en fait, il était amélioré, non pas tant sur la distance, qui est le gold standard de nos évaluations. Aujourd'hui, on dit à un malade qu'on opère, il doit augmenter sa distance. Ben non, lui, il n'avait pas augmenté sa distance, il avait beaucoup augmenté sa vitesse. Parce qu'il se trouve que plus on marche lentement, plus on peut marcher longtemps quand on a une maladie artérielle. Donc il avait, en fait, sans s'en rendre compte, il avait beaucoup, beaucoup diminué sa vitesse de marche. Et après l'opération, il avait retrouvé une vitesse normale. Mais il n'était pas content parce que la distance n'était pas améliorée. Donc voilà, c'est une non-réponse à votre question, mais c'est juste une illustration de ce que l'objet peut apporter au médecin, lequel objet remplacera jamais la décision médicale. Je suis assez tranquille, Madame Royer, sur mon avenir professionnel.
Bonjour, je vous remercie déjà de votre invitation pour vous présenter la télémédecine aujourd'hui. Je suis chargée d'accompagnement télémédecine sur la région Centre, plus particulièrement sur le département de l'Indre-et-Loire. Et je travaille pour le GIP e-Santé Centre-Val-de-Loire et non plus le GCS Télésanté. Donc j'ai juste fait une petite slide pour représenter le GIP. En fait, en mai dernier, tous les GCS de toutes les régions ont dû être transformés en GRAD, en groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Et donc, on s'est transformé en GIP e-santé Centre-Val-de-Loire. On est une équipe pluridisciplinaire répartie sur l'ensemble de la région et on accompagne les projets tels que la télémédecine, des projets comme Via Trajectoire, la e-santé, le e-parcours. Donc, la télémédecine, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc déjà, le point principal, c'est que la télémédecine, ce n'est pas uniquement un outil. C'est vraiment une pratique médicale donc, qui nécessite un projet. Les enjeux principaux de la télémédecine, on entend beaucoup parler de télémédecine pour lutter contre la désertification médicale. Est-ce qu'on peut faire de la télémédecine s'il n'y a plus de médecins ? C'est un des enjeux principaux, c'est que la télémédecine puisse permettre aux patients d'avoir recours plus facilement à un médecin. Néanmoins, la télémédecine nécessite un médecin. Donc si on n'a plus du tout de médecin, on n'aura plus personne pour répondre aux demandes des patients. Donc la télémédecine n'est pas la panacée contre la désertification médicale. C'est une aide dans le parcours patient pour que les patients aient accès à un médecin, à un spécialiste. Mais si on n'a plus de médecin pour répondre, on ne peut pas faire de télémédecine. Donc la télémédecine doit vraiment s'inscrire dans le parcours du patient. Il y a en ce moment, on entend beaucoup parler de plateformes où vous pouvez être chez vous à domicile et avoir accès à un médecin 24 heures sur 24. Je vais après vous parler un petit peu des textes et nous des projets qui sont développés dans la région. Pour les textes et d'après l'assurance maladie, cet accès à un médecin 24 heures sur 24 qui n'est pas son médecin traitant n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc le but donc, pour les patients, c'est qu'ils aient vraiment accès à une prise en charge plus rapidement. Certains délais pour avoir une consultation avec certains spécialistes sont très très longs. Donc c'est d'avoir accès à ce spécialiste plus rapidement, que le spécialiste puisse un peu prioriser certaines demandes de certains patients et de certains médecins généralistes. Et pour les professionnels de santé, c'est qu'ils puissent discuter entre eux de certains dossiers patients, de certains cas, mais d'une façon sécurisée. Actuellement, les médecins déjà envoient beaucoup de SMS, de mails, de coups de téléphone. Donc c'est juste en fait de remplacer cette partie qui se fait déjà, qui est informelle, mais que ça passe par un canal sécurisé pour que les données des patients ne soient pas envoyées sur des mails, par WhatsApp, par Gmail, par Google. C'est vraiment passer par un canal sécurisé, que ça soit hébergé chez un hébergeur de données de santé agréé par la CNIL. Donc au niveau un peu historique, la télémédecine, elle est apparue la première fois dans un texte de loi par la loi d'Oust-Blasi de 2004 concernant l'assurance maladie. Elle a été définie en 2009 par la loi HPST qui l'a donc introduit la définition dans le code de la santé publique. Suite à cette loi, il y a eu un décret de 2010 qui a défini 5 actes de télémédecine, donc je vais vous parler un petit peu après. Et qui a défini, pareil, ces actes sont définis dans un article du Code de la santé publique. Depuis 2012, il y a des expérimentations qui ont été mises en place. D'abord, à travers des programmes régionaux de télémédecine qui ont été mis en place dans certaines régions. Et par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, dont l'article 36 a défini le programme étape, qui est l'expérimentation de télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé. Donc au tout début, ces expérimentations ont défini 9 régions, des anciennes régions, pour expérimenter la télémédecine, donc pour définir des programmes de télémédecine, en définissant aussi avec les projets régionaux de télémédecine des axes prioritaires qui étaient le télé-AVC, la télémédecine qui devait se développer dans les unités sanitaires des prisons et dans les établissements médico-sociaux. Ensuite, on a eu revenir un petit peu en arrière, un élargissement de ces expérimentations par un arrêté de 2016 qui a élargi les expérimentations de télémédecine à toutes les régions de France qui pouvaient se lancer donc dans des expérimentations. Le grand changement est intervenu l'année dernière. Donc la loi de financement de sécurité sociale pour 2018 a basculé la télémédecine dans le droit commun de l'assurance maladie. Donc il y a 2 des actes de télémédecine qui sont maintenant définis dans la nomenclature générale de l'assurance maladie et qui rentrent dans le parcours de soins classique du patient. Suite à ça, il y a eu des négociations entre les syndicats des médecins, les syndicats pharmaciens avec l'assurance maladie pour définir la rémunération, les conditions dans lesquelles devaient s'effectuer les actes de télémédecine. Et pour élargir un peu sur ce qui va se passer, il y a l'avant-projet de loi qui devrait être présenté aux parlementaires là, sur le premier semestre 2019, qui prévoit encore un élargissement de la télémédecine et qui devrait introduire le télésoin et donc ouvrir la télémédecine aux paramédicaux qui pourront être considérés comme des spécialistes et rendre des avis par le même outil que les médecins peuvent utiliser également. Et les négociations sont en train bien avancée entre les paramédicaux, donc les infirmiers principalement, et l'assurance maladie pour que les paramédicaux puissent être rémunérés s'ils accompagnent une téléconsultation. La télémédecine, donc je vous ai dit que c'est un acte médical, donc ça doit donc être prescrit par un médecin. Ça entraîne une responsabilité partagée entre les médecins. Et donc, au niveau des obligations légales, le patient doit être informé qu'il va y avoir un acte de télémédecine et surtout, il doit être consentant à cet acte. Le compte rendu doit être archivé dans le dossier patient. Donc, c'est la différence principale avec des mails qui peuvent être envoyés, des coups de téléphone, des SMS. C'est qu'il y a une trace écrite de la discussion qu'il y a eu entre deux médecins sur un patient. Donc, je vous ai parlé de 5 actes de télémédecine. Donc, je vais vous les présenter un peu plus précisément. L'acte de télémédecine dont on entend le plus parler actuellement, c'est la téléconsultation. Donc la téléconsultation, c'est comme une consultation classique, sauf que ça se fait via un outil sécurisé, soit un ordinateur, soit un smartphone, en fonction des projets et des cas. Donc il y a un patient qui est soit accompagné d'un professionnel de santé, médecin, paramédical, ou qui peut être tout seul à son domicile, d'un côté d'un écran, et de l'autre côté de l'écran, donc à distance, le médecin. Donc là, c'est comme une consultation classique, hein, donc ils sont vraiment au même moment derrière l'écran. Ensuite, il y a la télé-expertise. Hein, donc là, c'est un médecin qui va envoyer une demande à un médecin, à un autre médecin spécialiste, mais ça se fait en asynchrone. Donc la réponse, généralement, se fait en 72 heures, 24 heures, ça dépend des projets, de ce qui est prévu entre les médecins. Donc ça, c'est les deux actes qui sont maintenant à la nomenclature générale de l'assurance maladie, et donc qui font partie du parcours classique du patient. Il y a encore des actes de télémédecine qui restent en expérimentation. Donc c'est la téléassistance. Donc la téléassistance, très médiatiquement, c'est une chirurgie à distance, le chirurgien qui pilote le robot, mais dans un autre établissement. Nous, sur la région, les projets qu'on a, c'est de la télééchographie. Si on prend le département, l'échographe est basé à Tours. Il y a un robot à Richelieu, donc qui est à une distance qui est à peu près une heure d'ici. Et les patients, en fait, ça évite aux patients de se déplacer jusqu'ici pour avoir cet examen, ces échographies. Un autre acte de télémédecine, c'est la télésurveillance. Donc là, ça se fait via des objets connectés. Il y a 5 pathologies qui ont été définies, dont le diabète, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque également. C'est des patients donc, qui ont ces pathologies, qui vont rentrer à leur domicile et qui vont être suivis par des médecins et des équipes télésurveillantes en rentrant chaque jour dans une application des données sur comment ils se sentent, s'ils sont fatigués, s'ils sont plus essoufflés que d'habitude, donc des données qui vont dépendre de leur pathologie. Et il y a les objets connectés qui vont aussi transmettre aux équipes télésurveillantes les données de santé du patient, donc qui peuvent être en fonction des pathologies, le poids, la fréquence cardiaque, la saturation. Et les équipes auront des alarmes en fonction des résultats et pourront rappeler les patients pour les inviter à retourner voir leur médecin généraliste dans le but d'éviter des hospitalisations en urgence en cas de décompensation. Dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, les premières expérimentations montrent que la télésurveillance, c'est 30% en moins pour l'instant d'hospitalisation en urgence, et sachant que les hospitalisations en urgence en cas de décompensation ont souvent un très mauvais pronostic. Donc ça, voilà, pour l'instant, c'est encore en expérimentation. Et le dernier acte de télémédecine, c'est la régulation médicale, donc le centre 15 que vous connaissez tous. Au niveau des conditions de réalisation et de rémunération, donc la téléconsultation, donc comme je vous l'ai dit, est maintenant prise en charge par l'assurance maladie. Elle est rémunérée comme une consultation classique. Donc si vous faites une téléconsultation avec votre médecin, il est rémunéré de la même façon, vous êtes remboursé de la même façon, avec le tiers payant, le 100%, comme une consultation classique. L'assurance maladie a mis quelques règles pour que les téléconsultations soit remboursé. C'est dans le but en fait d'éviter que vous connectiez un médecin qui va être à Lille, à Marseille, dans un pays étranger. Le but, c'est vraiment que ces téléconsultations se fassent en priorité avec votre médecin traitant. Et si le médecin traitant n'est pas disponible, dans une organisation territoriale qui sont les CPTS. C'est vraiment l'organisation, le maillage territorial qui a été choisi. Donc vous pouvez faire une téléconsultation, par exemple, depuis une officine de pharmacie, avec votre médecin traitant, avec un médecin spécialiste qui vous connaît, mais il y a obligation de faire au moins une fois par an une consultation en présentiel. Tout votre suivi médical ne peut pas passer en téléconsultation. Vous devez voir votre médecin régulièrement. Pour la téléexpertise, donc elle passe à la nomenclature en février, le 15 février prochain. Pour l'instant, il y a certains actes uniquement qui vont être remboursés. Ça sera pour les zones sous-denses. Donc on revient sur la désertification médicale. Là, c'est un outil pour lutter contre la désertification médicale. Pour les personnes, pour les résidents de structures médico-sociales telles que les EHPAD et pour les personnes en affection longue durée. À partir de 2020, il y aura un bilan de fait de ces usages et l'assurance maladie décidera d'ouvrir la téléexpertise à tout le monde ou pas. Là, il y a au niveau rémunération, il y a deux forfaits de rémunération qui sont à 12 et 20 euros en fonction de la difficulté de l'avis demandé, et le médecin requérant peut être rémunéré également pour cet avis. Souvent, il y a déjà des projets avec des téléexpertises, on s'aperçoit que les médecins traitants qui font des demandes, ils le font souvent le soir ou le week-end après leur consultation. Donc c'est un temps de travail en plus pour eux, d'où la rémunération qui avait été demandée par les syndicats de médecins. Je vais vous faire un point rapide sur le projet régional de télémédecine, ce qui se passe un peu dans la région pour vous présenter un peu plus la télémédecine en pratique. Donc je vous ai dit tout d'abord que la télémédecine, c'est pas un outil, c'est un acte, une pratique médicale, mais pour pouvoir en faire, il faut quand même un outil. Le but, c'est de remplacer les SMS, les mails par un outil sécurisé. Donc, au niveau de la région, l'ARS a, par un appel à un marché public, choisi une plateforme de télémédecine régionale qui est la plateforme Covotem, qui est accessible à tous les professionnels de santé de la région. Donc, dans la région centre, c'est la plateforme. Elle est également déployée dans d'autres régions qui sont les régions. Elle est en Normandie, en Franche-Comté, en Pays de la Loire. La région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, a une autre plateforme. Donc, c'est l'outil qui a été choisi en région. Elle est accessible, donc je vous disais, à tous les professionnels de santé, donc tant libéraux qu'hospitaliers, dans le but un peu de créer le lien ville-hôpital. Un médecin généraliste installé dans un cabinet en ville peut avoir accès via cette plateforme tant à un spécialiste hospitalier qu'à un spécialiste libéral. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc elle est hébergée chez un hébergeur de données de santé agréé par la CNIL. L'objectif principal de la télémédecine, c'est que les données de santé ne soient pas éparpillées et qu'on ne sache pas où sont nos données quand un patient a son dossier qui est échangé en télémédecine. Donc ça permet après un envoi de tout type de documents, parce que, pour exemple, pour des projets comme le télé-AVC, c'est des scanners, des IRM qui sont transférés via cette plateforme. Et donc ça permet la traçabilité des informations. Et il y a un lien avec le dossier médical partagé dont on entend également beaucoup parler actuellement. Elle est accessible donc depuis un nombre important d'outils informatiques, que ce soit des smartphones, des tablettes. On a des chariots de télémédecine qui sont déployés dans certains établissements. Donc ça dépend vraiment du projet de l'établissement. Ça, je vais passer très rapidement, mais c'était pour vous dire qu'en fait, on n'applique pas... Chaque projet de télémédecine est différent. C'est-à-dire que la télémédecine, on n'a pas un cadre qu'on impose à chaque professionnel de santé. C'est une pratique médicale, c'est à chaque professionnel de santé de s'approprier son projet et d'envisager ce qui est utile pour lui et pour sa patientèle et comment il peut mettre en place la télémédecine. Donc nous, on l'accompagne, donc je vous disais, on est une équipe répartie sur toute la région. On l'accompagne donc dans la conception de son projet, de voir ce qui est faisable, pas faisable. On a des limites technologiques encore, même si c'est quelque chose qui est très évolutif et qui va très vite. On a encore quelques limites techniques. On l'aide à trouver des financements. La télémédecine, on en entend parler, hein, ça a été dans la loi santé, c'est l'ARS, ça fait partie de la stratégie de déployer la télémédecine. Donc il y a des budgets, il y a des financements pour aider les établissements à investir dans du matériel pour déployer leurs projets de télémédecine. Donc il y a des fonds d'investissement régionaux qui peuvent être attribués aux établissements. Et pour les établissements médico-sociaux et pour les libéraux en exercice regroupé, tels que des maisons de santé pluriprofessionnelles, on a dans la région, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément applicable aux régions, aux autres régions, l'État et la région centre ont mis en place des contrats plan État-région, des CPER, qui financent l'équipement dans les EHPAD et donc dans les MSP. Donc nous, on est vraiment là pour les accompagner de A à Z dans leur projet, trouver les financements jusqu'à après vraiment l'installation et la mise en place du projet. Quand je parle de projet, c'est vraiment le point principal pour la télémédecine, c'est qu'on ne peut pas lancer de la télémédecine dans un établissement ou même pour un médecin libéral comme ça du jour au lendemain s'il n'a pas vraiment envisagé comment la mettre en place. C'est pas parce qu'on peut décider, j'ai envie de faire des téléconsultations avec mes patients, des patients qui seront tout seuls à domicile, mais il faut quand même, dans ce cas-là, il y aura des contraintes. Un patient qui est tout seul à domicile, qui va faire des téléconsultations avec son médecin, il faut déjà qu'il y ait du réseau Internet, de la 4G. Dans la région, il n'y en a pas partout. On a encore des zones blanches, ce qui est un frein au développement dans certaines zones, qui sont souvent, si on superpose les cartes de désertification médicale et les cartes de désertification numérique, c'est des zones qui se recoupent souvent. Donc on ne peut pas... la télémédecine est un outil pour lutter contre la désertification médicale, mais en même temps, on a le frein numérique qui fait qu'on ne peut pas forcément déployer de la télémédecine, même dans des zones qui en auraient le plus besoin. Donc chaque établissement, chaque médecin doit vraiment réfléchir avec qui, comment il a envie de faire de la télémédecine. Et surtout l'impact organisationnel. Certains médecins veulent mettre en place des téléconsultations et vont réserver par exemple un créneau d'une après-midi à des téléconsultations. Ça veut dire que pendant ce temps-là, dans leur cabinet, ils n'ont pas de consultation en présentiel, donc il faut les retirer de leur emploi du temps, de leur agenda, mais il faut quand même dans ce cas-là être sûr qu'on va avoir des téléconsultations parce qu'un médecin ne peut pas se permettre d'avoir un après-midi vide sans consultation. Donc il y a un impact organisationnel à la mise en place de la télémédecine qu'on évoque vraiment avec tous les professionnels quand on met en place leur projet. Donc là, c'est les financements par les contrats plans État-région dont je viens de vous parler, donc pour les établissements et les exercices regroupés pour les libéraux. Pour les libéraux qui ne seraient pas en exercice regroupé, ou même pour ceux qui sont en exercice regroupé, l'assurance maladie a également mis en place, là, depuis le passage à la nomenclature générale, une aide à l'installation pour le matériel, les abonnements éventuels à des logiciels de télémédecine. Pour faire un petit point vraiment sur les projets en cours, pour que vous voyez comment ce que peut être vraiment la télémédecine, on a des projets régionaux et des projets territoriaux. Alors les projets régionaux, donc c'est des projets qui vont se déployer vraiment entre les différents établissements de la région. On a par exemple le télé-AVC. Le télé-AVC, c'est un patient de l'Indre qui fait un AVC, il va être emmené aux urgences de Châteauroux. Châteauroux-Tours, c'est 2 heures. Quand on fait un AVC, qui est avec un caillot, on a 4 heures pour être thrombolisé. On n'arrive pas forcément aux urgences dans la demi-heure dans laquelle on a fait son AVC. Donc, on a 2 heures pour venir à Tours. Ils arrivent généralement à Tours. Le délai pour être thrombolisé, il faut une prise en charge très très rapide. Donc le projet qui a été mis en place donc entre Châteauroux et Tours, et il y a aussi un axe dans le 45 et dans le 28, c'est que le patient reste aux urgences, a les examens d'imagerie médicale aux urgences de Châteauroux, est examiné par un neurologue de Tours en télémédecine, et l'acte médical de thrombolyse est réalisé aux urgences de Châteauroux avec supervision de l'urgentiste de Châteauroux et du neurologue du CHU. Ça évite, et après, ils sont transférés dans l'unité neurovasculaire pour la suite de la prise en charge. Mais le transport coût est hors délai de thrombolyse. Donc le patient gagne 2 heures, sachant que plus on est rapide dans cette thrombolyse, moins il risque d'y avoir de séquelles. On gagne 2 heures sur 4 heures. Le télé-EEG, c'est pareil. Dans la région centre, on manque de ressources médicales. Des personnes qui peuvent interpréter des EEG pédiatriques, des médecins qui peuvent faire ces interprétations, il ne peut pas y en avoir dans tous les établissements de la région. Donc le projet qui est une ressource à Tours qui interprète tous les examens de la région. Le TIU, c'est le transfert in utero. C'est le transfert des femmes enceintes en fin de grossesse qui nécessite d'être dans une maternité de niveau plus important. Il y a 3 niveaux de maternité. On a 2 maternités de niveau 3 qui peuvent prendre en charge vraiment les cas les plus importants avec de grossesses à risque qui sont à Tours et à Orléans. Une patiente qui va arriver à Chinon, actuellement le transfert se fait déjà. La demande de transfert qui reprend toutes les données médicales de la patiente se fait par fax. L'utilisation des fax est plus du tout préconisée par la CNIL pour justement les divulgations possibles de données personnelles et de données médicales. Donc là, maintenant, le projet va passer par télémédecine et avec implication du SAMU pour une prise en charge plus rapide et plus efficace de la patiente. On a un projet de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque à l'échelle régionale. Alors, il y a déjà plusieurs prestataires commerciaux qui ont développé ces projets sur la région. Des patients, donc, comme je vous disais, qui vont rentrer chez eux avec une tablette, de quoi prendre leur tension et une balance connectée. Nous, on est en train de montrer avec 3 centres de la région un projet un peu plus poussé où il y a de l'éducation thérapeutique également associée pour aller un peu plus loin dans la télésurveillance. Et il y a un projet régional d'addictologie. C'est pareil, des médecins psychiatres addictologues sur la région, on n'en a pas assez. L'expertise ne peut pas être rendue partout. Donc le but, c'est de mutualiser les compétences des médecins et de vraiment mailler tout le territoire de la région pour que tous les patients de la région puissent avoir accès à cette spécialité et à leur expertise. Concernant les projets territoriaux, donc je vous disais, nous, la plateforme Covotem, elle est accessible vraiment à tous les professionnels de santé. Donc on a des projets de téléconsultation, téléexpertise qui sont développés auprès de professionnels libéraux, tant dans les maisons de santé, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les établissements du handicap, dans certaines associations, comme je vous disais, pour la dictologie. Et un des points aussi, c'est les unités sanitaires des prisons. Faire entrer un médecin en prison, c'est compliqué, ça lui prend beaucoup de temps, parce qu'il y a tous les contrôles, entrer en prison. Extraire un patient juste pour une consultation, par exemple, de dermatologie, ça coûte très cher et c'est très compliqué. Alors, c'est fait pour les hospitalisations. Pour une consultation simple, la question se pose de l'intérêt, du risque du transfert de certains prisonniers vers certaines spécialités. Les médecins libéraux, par exemple, ne peuvent pas forcément les accueillir. Donc maintenant, il y a des téléconsultations depuis les prisons pour une meilleure prise en charge médicale dans les prisons. Voilà, je vous ai mis un petit peu des différents liens si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la télémédecine. Il y a eu, en dehors des textes vraiment de loi et des textes réglementaires, il y a eu beaucoup de publications sur la télémédecine. Il y a la Haute Autorité de Santé, par exemple, qui en avril 2018 a publié une fiche sur la télémédecine pour dire un peu ce qui pouvait être fait, ce qui ne pouvait pas être fait en télémédecine. Et ce que dit la HAS, c'est que c'est à discrétion du médecin. C'est le médecin qui doit décider ce qui peut être fait en télémédecine, ce qui ne peut pas être fait en télémédecine. C'est, pour l'instant, il n'y a aucune limite vraiment définie pour ce que le médecin peut faire en télémédecine. Donc il y a pareil, la DGOS, la NAP, le Conseil de l'Ordre des médecins aussi qui a fait plusieurs publications sur la télémédecine, qui préconise également que l'organisation reste territoriale. La question se pose de le terme qu'ils emploient, c'est l'ubérisation possible de la santé. Après, est-ce que vous accepteriez de faire une téléconsultation avec un médecin qui n'est pas diplômé en France, qui est situé dans un autre pays ? C'est les questions qui se posent dans la mise en place de ces projets de télémédecine et qui sont donc à évoquer, qui sont à réfléchir au fur et à mesure du développement des projets. Pour l'instant, ce que je vous disais, nous, on est vraiment dans une mise en place territoriale et en respectant le parcours de soins du patient. Le médecin traitant du patient doit être au cœur du dispositif mis en place. Et voilà, et sur le site de l'ARS, vous pouvez, je vous invite à regarder, il y a plusieurs magazines e-santé centres qui ont été publiés, qui décrivent un peu des projets, mais vraiment dans leur mise en place pratique de ce qui peut être fait dans la région. Voilà, moi je vous remercie.
Merci Madame Nico pour cette démonstration. Avant de se quitter, nous voulons savoir si certaines personnes avaient des questions. Oui.
Bonjour. Je voulais savoir, parce que vous dites que le médecin généraliste doit être au cœur de l'action, mais par exemple, il y a des applications comme Livy qui se sont développées récemment, où en gros, je reste dans mon canapé et je vais avoir un Skype avec un médecin qui peut se retrouver à Paris, à Orléans ou à Marseille. Et là, mon médecin généraliste ne sera pas du tout au courant de ce qui va se passer. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est une fois que je suis en Skype avec ce médecin marseillais, comment il va pouvoir m'examiner physiquement sans même me toucher? Par exemple, si j'ai une angine, il va bien être obligé de me palper la gorge pour savoir si c'est ça ou pas. Et je voulais savoir si ça ne pose pas une question de dangerosité du diagnostic par rapport à sa responsabilité à lui, par exemple.
Alors, justement, nous, le point, ce que je vous disais, c'est que nous, ce n'est pas du tout les projets sur lesquels on travaille. Il y a énormément de plateformes. Certaines mutuelles proposent ça à leurs adhérents. Nous, on travaille vraiment dans des projets déjà territoriaux. Et c'est la téléconsultation où vous êtes seul à domicile, c'est le médecin traitant qui va vous la proposer. Et donc, en fonction, et pas pour toutes les pathologies. Donc, pour l'instant, des médecins, nous, qui veulent faire des téléconsultations comme ça, où vous serez seul à domicile, c'est des patients qu'ils connaissent déjà, c'est des pathologies chroniques, où justement, il n'y a pas forcément besoin d'un examen clinique ce jour-là. C'est des patients qui voient très régulièrement. Généralement, ils les voient 5-6 fois par an. Donc, c'est une téléconsultation qui va s'intercaler entre deux consultations en présentiel. Après, la question de la responsabilité du médecin qui vous examine, il y a déjà le fait que il n'a pas votre dossier, il ne vous connaît pas, donc c'est à vous de lui donner vos antécédents, mais il ne va pas forcément vous voir déjà en pied. La question se pose, il y a des projets d'installation dans des mairies, dans des halls de mairie, de cabines de téléconsultation, où la personne va venir, il n'y a pas de professionnels de santé qui vont l'accompagner, ça serait des assistants administratifs. Donc la personne s'assoit dans la cabine, met son doigt dans un appareil pour prendre la tension, faire un ECG. Pour l'instant, c'est des choses qui sont vraiment à l'étude, en réflexion. Nous, c'est ce que je vous disais, nous, dans la région, ce n'est pas ce qu'on préconise. C'est vraiment que ça reste en territorial. Après, il y a des patients qui n'ont pas de médecin traitant dans la région, parce que dans certains départements, il y a plus de 10% de patients qui n'ont pas de médecin traitant, parce que les médecins en place ne peuvent pas prendre de nouveaux patients en tant que médecin traitant. Donc là, ils peuvent effectivement avoir accès à des médecins qui sont plus loin, mais la question se pose vraiment de savoir le diagnostic du médecin, est-ce qu'il sera totalement fiable? Ça reste des médecins qui sont diplômés en France, qui sont médecins, qui engagent leur responsabilité médicale dans leur diagnostic. Après, c'est à eux de dire que dans votre cas, ça ne pourrait pas passer en téléconsultation, par exemple. C'est nous, ils ont toujours la possibilité de dire non, là, il faut une consultation en présentiel. Certaines télé-expertises, certaines téléconsultations, on sait très bien que, je prends l'exemple d'un grain de beauté où on se pose un peu la question, on a des suspicions sur ce grain de beauté. On appelle pour prendre rendez-vous avec un dermatologue, c'est 8 mois, 9 mois d'attente pour un rendez-vous. Quand on a une suspicion de cancer sur un grain de beauté, 9 mois d'attente, c'est énorme. Son médecin généraliste, il va conseiller le rendez-vous avec le dermatologue aussi. Par contre, si on fait par une télé-expertise ou une téléconsultation, on ne pourra pas faire une biopsie par la télémédecine. Ce n'est pas quelque chose qui est possible. Mais par contre, on peut avancer la date de rendez-vous et être prise en charge beaucoup plus rapidement. Après, les plateformes qui proposent comme ça des consultations 24 heures sur 24, actuellement, l'assurance maladie ne rembourse pas ces consultations. Ça peut être pris en charge par la mutuelle. Après, c'est la même chose, les assurances et les mutuelles qui fournissent ce service, vous leur donnez toutes vos données de santé. Donc c'est aussi un choix à faire. Est-ce que vous voulez que votre assurance connaisse toutes vos données de santé ?
Moi, j'aurais juste une question par rapport aux HAD. Est-ce que vous pensez que dans un futur plus ou moins proche, on pourrait envisager que, vu la complexité pour déplacer les patients qui sont hospitalisés à domicile, on pourrait faire des téléconsultations ou autres pour ce genre de patients ?
C'est en projet, avec l'HAD, avec la SAD HAD en particulier. Ils ont des projets justement de télémédecine. Et certaines, je pense à l'HAD LNA, fait déjà des téléconsultations entre les paramédicaux qui se déplacent à domicile et leurs médecins quand ils sont d'astreinte ou quand ils sont au bureau, pour justement éviter des déplacements trop souvent, que ce soit le médecin qui doive se déplacer au domicile du patient ou le patient qui doivent être déplacés.